Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est un peu le même malaise qui s'exprime un peu partout en Europe. Les professeurs du service public ont des états d'âme confrontés à des salaires en baisse ou à une grande précarité. C'est le cas en Grèce, l'école publique a elle aussi subi les longues années d'austérité. En 8 ans de crise, aucun enseignant n'a été recruté définitivement. Le ministère de l'Éducation part au plus urgent, faisant appel à des vacataires. L'étau s'étant desserré cet été, le gouvernement a promis des titularisations. Mais les précaires, qui représentent 15% du personnel éducatif, s'impatientent. Ils en ont assez d'être maltraités, sans connaître leur affectation, quelquefois une heure seulement avant la prise de poste. Et puis au chômage, 3 mois par an quand même. C'est le reportage de Charlotte Stievenard dans l'île de Salamine, non loin d'Athènes, dans une école primaire qui emploie pour moitié des vacataires.
Tous les jours, depuis la rentrée de septembre, Dimitris Ratifotiades prend le bateau de Perama pour se rendre sur l'île de Salamine, non loin d'Athènes. Il faut 2 heures de transport en commun à cet enseignant vacataire pour rejoindre l'école primaire dans laquelle il a été affecté. Mais en réalité, il vient de beaucoup plus loin.
Ma famille vit à Xanthi, à 750 km, mais je suis obligé de travailler ici et c'est très difficile. Nous tous, du secteur de l'éducation, nous faisons des sacrifices pour que les écoles fonctionnent. C'est la seule solution. Si tu veux travailler, tu dois t'éloigner de ta famille.
Alors qu'il a déjà 22 ans d'expérience à Athènes, il continue de loger avec sa tante, car il gagne à peine de quoi nourrir sa famille.
Nous sommes payés 9 mois sur 12. Moi qui ai une grande expérience, je gagne environ 1000 euros par mois. Mais d'autres gagnent moins que ça.
Comme d'autres, il travaille à plein temps sur un poste qui devait revenir à un titulaire. Sa collègue, Vassiliki Evagelaka, qui fait des photocopies dans la salle des professeurs. Elle se trouve dans une situation similaire. À 31 ans, cette enseignante du primaire est désabusée.
Nous découvrons une nouvelle école chaque année. Nous ne connaissons pas les niveaux à l'avance. Pourtant, ça nous permettrait de nous préparer, de préparer le matériel. Mais on apprend le jour même, quelquefois à 7 heures du matin, notre affectation. Et on doit être à l'école à 8 heures. Ça m'est arrivé plusieurs fois. De toute façon, on n'a jamais l'esprit tranquille, parce qu'on sait qu'on sera au chômage pendant 3 mois.
Dans cette école primaire, presque la moitié des enseignants sont des vacataires. Pour la directrice, Elie Corou aussi, ce serait beaucoup plus simple si tous étaient titularisés.
On y gagnerait en stabilité, on pourrait mieux organiser les activités de l'école, les transports, prévoir les coûts de fonctionnement, les sorties éducatives également. À l'heure actuelle, par exemple, nous ne proposons pas de cours d'allemand. Alors si une enseignante d'allemand arrive maintenant, le programme va encore changer, alors que nous sommes déjà en décembre.
Excédés, les enseignants vacataires manifestent régulièrement devant le ministère de l'Éducation. Début novembre, des élèves participaient aussi, comme cette lycéenne de 16 ans.
La prof de biologie était absente l'an dernier. C'est le prof de physique qui l'a remplacée, mais il ne connaissait pas toute la matière. Souvent, les enseignants arrivent tard dans l'année. Le prof de bio a manqué 2 mois. D'autres années, c'était 6 mois. Au collège, il y en a qui arrivent à la fin de l'année sans être remplacés.
Elle estime que ce système bancal coûte cher à elle, mais aussi à ses parents. La concurrence pour entrer à l'université étant très dure en Grèce, comme beaucoup, elle paye plus de 170 euros par mois en cours du soir, le frontistério. Assis dans son bureau, loin du centre d'Athènes, Kostas Gavroglou, le ministre de l'Éducation explique que ces dernières années, pressés par les créanciers, les différents gouvernements ont dû diminuer le nombre de fonctionnaires en général.
Comme vous le savez, on avait la règle de 1 sur 5. Pour 5 fonctionnaires qui partaient, une personne seulement était recrutée. Vous l'imaginez bien, c'était pareil dans tout le service public. Mais il y avait la possibilité d'engager des vacataires dans l'enseignement pour pallier le manque de recrutement de titulaires. Aujourd'hui, ce cauchemar est derrière nous. La règle passera à 1 pour 1 en 2019 et nous allons pouvoir procéder à des recrutements. Pas seulement dans l'éducation, mais aussi dans les hôpitaux et dans d'autres parties du secteur public.
Aujourd'hui, le gouvernement de Syriza promet effectivement de titulariser 15 000 enseignants. En réalité, selon son calendrier, seuls 4 500 éducateurs spécialisés pour les enfants ayant un handicap ou un retard d'apprentissage seront concernés l'année prochaine. Or, fin 2019, les élections arrivent. Pour les autres enseignants vacataires, l'attente pourrait être longue encore.
Dans le nord de l'Europe, en Suède précisément, la pénurie d'enseignants se fait également sentir. Selon l'éducation nationale, il va falloir recruter 77 000 professeurs d'ici 2022 pour couvrir les besoins. Mais les candidats sont peu nombreux à se présenter car le métier n'est plus très attractif, comme nous l'explique Anne-Françoise Hiver.
77 000, c'est le nombre d'enseignants actuellement embauchés aux primaires dans le public en Suède. De quoi donner un ordre d'idée de la tâche à accomplir en quelques années à peine. Selon l'Agence nationale de l'éducation, il manquera 80 000 enseignants en Suède d'ici 15 ans si les embauches n'augmentent pas rapidement. Pour combler le manque, il faudrait former 23 700 profs par an, loin des 13 500 candidats qui se destinent chaque année à l'enseignement. En cause, les salaires d'abord à la traîne par rapport à ceux du privé. Plusieurs réformes ont été adoptées ces dernières années pour tenter de limiter l'écart. La demande criante d'enseignants leur a aussi permis de faire jouer la concurrence et d'obtenir des revalorisations, à condition de changer souvent de poste, avec pour conséquence une guerre sans merci entre les établissements pour les recrutements. Les conditions de travail découragent également les candidats, des journées qui allongent, de plus en plus d'administration, des remplacements à effectuer à l'arraché. Selon une enquête de l'Agence nationale de l'éducation en date de 2013, les instituteurs travaillaient alors en moyenne 48 heures par semaine. Le peu de considération pour la profession n'arrange rien de la part des élèves et de leurs parents, mais aussi parfois des proviseurs dont le budget dépend du nombre d'inscrits dans l'établissement et donc du niveau de satisfaction des parents. Entre les communes, les inégalités se creusent. À la rentrée, plus de 2000 enseignants de plus de 65 ans ont dû rempiler. Le manque de profs a été discuté pendant la campagne électorale avant le scrutin du 9 septembre en Suède, mais sans que le débat permette d'aboutir à des solutions qui pourraient véritablement résoudre le problème.
Crise des vocations donc en Suède, crise des vocations également en France et même grand malaise. En témoigne le hashtag Pas de vague qui a surgi il y a quelques semaines après un nouvel épisode de violence dans une classe de lycée. Les professeurs pointent le manque de perspective dans leur carrière, les coupes budgétaires. Ils ne se sentent pas toujours écoutés par leur direction. Bref, comme l'explique Laurent Fragerman, chercheur au Centre d'histoire sociale et spécialiste des mobilisations enseignantes, ils se sentent déconsidérés.
Chez les profs de l'enseignement secondaire, du second degré, il y a depuis longtemps un sentiment de dévalorisation, de lent déclin par rapport à une image peut-être un peu fantasmée de l'enseignant du passé. C'est par exemple une des professions qui a vu son temps de travail augmenter, puisque le temps, nombre d'heures de présence en classe est le même que depuis les années 50, et par contre, il y a toute une série de tâches qui ont été rajoutées. Se rajoute à ce schéma, dernièrement, une baisse nouvelle des effectifs, hein, c'est la deuxième année, et se rajoute également un problème, disons une transformation du métier, qui n'est pas vraiment maîtrisée et qui repose sur beaucoup d'injonctions contradictoires. Du côté des pouvoirs publics, on a le sentiment que les enseignants résistent à tout, sont corporatistes, etc. Et du côté des enseignants, on a le sentiment qu'on ne comprend pas leur métier réel et que ce qu'on leur propose n'est pas faisable.
Mais aujourd'hui, ce dont on parle, au-delà du malaise, on parle vraiment de souffrance chez les enseignants.
La souffrance, je pense qu'elle est vraiment présente chez une partie des enseignants, qu'il faut pas généraliser non plus. Disons que le malaise fort qui s'exprime avec Pas de vague, pour moi, c'est 20%, 30% de la population enseignante maximum. Cela cumule un certain nombre de facteurs à risque. Mais globalement, ce qui existe chez les enseignants, c'est un mécontentement au sujet de la gestion du climat de classe. C'est-à-dire que le climat de classe a tendance à être de plus en plus dégradé. Les enquêtes internationales le montrent. Et face à ça, on demande aux enseignants de faire toujours plus avec moins d'outils de sanctions. Donc il y a une vraie question là-dessus. Je voudrais un peu insister sur ce problème des enquêtes internationales qui sont intéressantes.
Oui, notamment les enquêtes PISA, celle de 2015, qui signale que c'est
en France que la situation s'est le plus dégradée dans les salles de classe.
Là, on est sur une enquête internationale qui est vraiment fiable parce qu'on enquête sur quelque chose d'assez simple. On demande aux élèves en 2009, puis après ça s'est répété en 2015, PISA leur demande, est-ce que le cours auquel vous assistez est perturbé par d'autres élèves ? Et en France, c'est un des pays où ils répondent le plus oui. C'était assez surprenant comme résultat. La seconde enquête de l'OCDE, c'est cette fois-ci du côté des profs, c'est Thalys. Et Thalys, en 2013, elle nous indique que les enseignants français considèrent qu'ils passent 20% de leur temps, en moyenne, à faire de la discipline plutôt qu'à enseigner. Et c'est beaucoup plus que les Anglais qui estiment ça à 11%. Et ce problème-là n'est pas traité.
Il y a aussi ce sentiment chez eux, et ça c'est assez général, de ne pas être soutenu par leur hiérarchie. Ils se sentent seuls.
Ils se sentent seuls, disons que c'est moitié-moitié en fait. Il y a des enseignants qui considèrent que tout se passe bien. En fait, très souvent, ils intériorisent l'idée que la hiérarchie va pas beaucoup les soutenir, mais si ça se passe bien dans leur cours, ils vont pas lui en vouloir. Il y en a une minorité qui va être soutenue. Une des missions des chefs d'établissement qu'ils font, c'est d'épauler les enseignants qui traversent une mauvaise passe ou quoi que ce soit. Mais une moitié des enseignants considèrent que la hiérarchie ne les soutient pas et que c'est une vraie difficulté professionnelle. Et une partie d'entre eux considèrent en plus que leur chef d'établissement, ce qui est le plus important dans la vie quotidienne, ils ont une relation difficile avec lui. Globalement, on voit bien dans toutes les enquêtes que les enseignants n'ont pas confiance dans leur hiérarchie pour avancer là-dessus. Parce que ce que propose cette hiérarchie, finalement, ne correspond pas à leur vécu.
En même temps, c'est de là que vient ce mouvement pas de vague, parce que les enseignants ont l'impression aussi qu'on leur demande de taire quelquefois les problèmes qu'ils rencontrent dans leur classe.
Oui, la politique dominante depuis plusieurs années, ça a été de dire, quoi qu'il se passe, l'enseignant doit garder les élèves dans sa classe et il ne doit pas leur faire de punition, il doit être bienveillant. Enfin, donc on a beaucoup pensé finalement à l'élève perturbateur et beaucoup moins à l'élève qui est perturbé et qui ne peut pas suivre le cours.
Alors on parlait de la sanction tout à l'heure. Tous les professeurs ne sont pas d'accord pour durcir en fait le régime des sanctions. Pour eux, c'est pas forcément la solution.
Globalement, les enseignants tous sont quand même pris dans une tension. Ils ont envie d'être dans l'éducatif. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de policiers dans l'établissement. Ils voient pas l'intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est donner un peu plus de force à l'institution dans la relation éducative, mais ne pas aller trop loin. L'idée n'est pas de faire des moutons. L'idée, c'est que les élèves soient émancipés et qu'il y ait un esprit critique qui leur soit insufflé par l'école. Donc, ils restent dans cet état d'esprit là. Et donc concrètement, comment on fait ? On a des avis assez différents.
Alors la profession, effectivement, est en difficulté. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'attire plus, hein, malgré les dernières propositions du gouvernement pour rajouter des primes si on choisit d'enseigner dans les zones sensibles.
Ces primes sont assez faibles de toute façon et puis clairement de toute manière elles ne compensent pas la baisse des salaires conséquentes et régulières du métier enseignant. Disons les enseignants sont les seuls fonctionnaires d'État qui ont aussi peu de primes justement. Et du coup ils ont eu une baisse de leurs revenus plus importante. Ça c'est le premier point. Oui, on voit bien que quand on supprime des postes, ce qu'a déjà fait Monsieur Blanquer cette année, il va récidiver pour l'année prochaine, eh bien on envoie un message très négatif et à moyen terme aux candidats au métier. On leur dit il n'y a pas d'avenir dans ce métier, c'est un métier délaissé, qui ne sera pas revalorisé du point de vue salarial, je viens d'en parler, et qui va avoir plus de temps de travail, des conditions dégradées. Donc, ce n'est pas un message d'optimisme. Et on a constaté à chaque fois que quand on augmentait le nombre de postes, il y avait plus aussi de candidats.
Laurent Fragerman, chercheur et spécialiste des mobilisations chez les professeurs.
Oh. Et quelqu'un en a profité en plus pour cracher sur la profession.
Et c'est AIT, glacé E accent.
Ne m'interpellez pas!
Est-ce que c'est primitif singulier?
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
On vient de l'entendre, la question des salaires et de leur revalorisation est primordiale pour déclencher de nouvelles vocations. Alors on va faire le point avec vous Eve sur les salaires des profs en Europe. En fait, leur situation diffère énormément d'un pays à l'autre. Plusieurs études assez récentes reviennent sur ces spécificités.
Ah, et vous allez voir, les écarts de salaire notamment sont parfois choquants. Le réseau Eurydice, réseau européen d'information en matière de formation et d'éducation, a par exemple publié cet été un rapport portant sur les salaires minimums des professeurs en primaire lors de l'année scolaire 2015-2016. Eh bien, figurez-vous qu'au sein des 28, l'écart des salaires entre le professeur le mieux payé et celui qui touche le plus petit salaire est de 68 417 euros par an. L'enseignant européen le moins bien payé est roumain et touche 3 583 euros par an, quand son équivalent luxembourgeois touche lui 72 000 euros sur la même période, 21 fois plus, quand je vous disais qu'il y avait de quoi être choqué.
Ah oui, c'est assez impressionnant. impressionnant. Et pour les autres ?
Alors en France, les maîtresses et les maîtres touchent 24 500 euros bruts par an minimum, ce qui correspond à peu près au salaire de leurs homologues italiens, chypriotes ou portugais, mais qui s'avère être deux fois plus qu'un enseignant estonien, grec ou tchèque. Et mis à part l'exemple luxembourgeois, les professeurs les mieux payés en Europe habitent en Allemagne ou au Danemark avec un salaire minimum annuel qui tourne autour des 44 000 euros.
Pour mieux comprendre leur situation, il faut, j'imagine, Eve, remettre ces chiffres dans leur contexte.
Oui, surtout les mettre en rapport avec le coût de la vie dans les différents pays européens, rapporté au PIB national par habitant de chaque pays de l'Union. On peut affirmer que la situation des professeurs portugais, par exemple, est la plus confortable devant les Espagnols et les Allemands. Et inversement, il sera beaucoup plus difficile de joindre les deux bouts en tant qu'enseignant en Lettonie, en Lituanie ou en Slovaquie.
Les enseignants allemands ressortent donc comme les grands vainqueurs de ces statistiques. Et pourtant, il existe une véritable pénurie outre-Rhin.
On dit même que d'ici 2025, il manquera environ 35 000 enseignants dans les salles de classe en Allemagne. Le pays est confronté à une pénurie historique de main-d'œuvre qui ne correspond pas, comme on l'a vu, aux conditions d'exercice de ce métier, mais bien au départ à la retraite de nombreux baby-boomers et à l'augmentation du nombre d'élèves. Le pays a donc mis en place, comme ailleurs en Europe, d'ailleurs des politiques de recrutement alternatives. À Berlin, par exemple, la commune invite les retraités à retrouver le chemin de l'école, mais elle organise aussi des castings ouverts où le recrutement se fait cette fois-ci parmi d'autres professions comme par exemple des metteurs en scène, des journalistes, des musiciens ou encore des vétérinaires. Ces nouvelles recrues ont même un nom, on les appelle les Quereinsteiger, nous apprend la revue Paris-Berlin dans un article paru cet été.
De leur côté, les profs italiens se sont également distingués dans un autre tableau, pas non plus très valorisant.
Cette fois-ci, l'enquête ne porte pas sur les salaires, mais sur le respect dont ils font l'objet. Et selon le quotidien Les Échos, les enseignants italiens sont de véritables souffre-douleurs pour leurs élèves. Dans le Global Teacher Status Index 2018, publié par la fondation Varchi, une association caritative londonienne, ils arrivent à la toute fin du tableau des enseignants les moins respectés par leurs élèves et par la société dans son ensemble, juste devant les Brésiliens et les Israéliens. Parmi 35 pays étudiés, le classement fait la part belle aux pays d'Asie qui occupent les premières marches du podium. Le premier pays européen arrive, lui, à la 12e place et il s'agit de la Grèce.
Merci Eve, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors en Grande-Bretagne, malgré des salaires plutôt attractifs et une moyenne de 17 élèves par classe, on manque d'enseignants comme en Allemagne. L'idée est donc d'attirer des gens bien insérés dans la vie active vers une seconde carrière de professeur. Et c'est ce qu'a fait il y a 2 ans une ancienne journaliste en lançant Now Teach. Cette organisation aide les professionnels à se reconvertir, Marie Billon.
C'est un peu une crise de la fin de la cinquantaine par laquelle est passée Lucy Kellaway. Éditorialiste pour le journal financier britannique The Financial Times, elle avait l'impression de ne pas être utile. Alors quand sa fille a commencé à enseigner, ça l'a inspirée. Elle a de suite été confrontée à un barrage. Être prof, c'est dur, surtout à votre âge, lui disait-on. Mais elle n'a pas baissé les bras et a décidé de se former malgré tout et de créer en même temps un groupe d'aide aux personnes qui, comme elle, veulent entamer une seconde carrière dans l'enseignement. C'est ainsi qu'est né Now Teach. Grâce à des interviews et des éditoriaux dans les journaux, Lucie a fait connaître son projet et dès la première année, 1000 candidats se sont proposés. Certains ont retiré leur candidature rapidement, comme ce chef d'entreprise qui a laissé tomber quand sa femme lui a fait remarquer qu'il n'aimait pas beaucoup les enfants et même pas les siens. Mais Lucie a quand même écrémé, 45 ont finalement été sélectionnés, des anciens militaires, diplomates, entrepreneurs, professionnels de la communication par exemple. Tous avaient perdu la flamme qui les animait dans leur carrière et voulaient mettre leur expérience au service de la société. Le programme de Now Teach est finalement assez classique. La première année, les nouveaux étudiants sont formés dans des écoles en suivant des enseignants dans leur classe. La deuxième, le nouvel enseignant prend une classe en charge avec un minimum de supervision. En fait, l'organisation apporte surtout une aide sur 2 fronts. Aider à trouver un poste dans un établissement et proposer un réseau de soutien et d'entraide. Now Teach s'est concentré sur Londres la première année, là où il manque le plus de profs. Mais l'association s'agrandit. Elle s'est concentrée sur l'est du pays lors de la rentrée 2018. Et organise maintenant des événements dans toute l'Angleterre pour se faire connaître et susciter les vocations.
Et vous retrouverez cette spéciale sur le malaise des professeurs sur notre site rfi.fr ou sur notre page Facebook. À la réalisation et à la mise en onde, il y avait bien évidemment Françoise Collot.